Radio Okapi.
12h à Kinshasa, le journal Jacques-Yves Molima. Deux personnes sont mortes dans une scène de braquage qui s'est déroulée hier soir dans la commune de Bandalungwa ici à Kinshasa. Ce sont des hommes armés qui dévalisaient une agence de Western Union qui ont tiré sur ses victimes. La vie reprend timidement son cours normal à Bunagana, cité située à la frontière ougandaise. C'est à la suite de la calmie observée ces derniers jours, les déplacés commencent à regagner leur village timidement. Enfin, des femmes souffrantes des problèmes d'infertilité primaire et secondaire sont consultées gratuitement au centre hospitalier Lumbulumbu à Kindu. Pour en savoir plus, nous recevrons dans cette édition du journal Dr Mbungu Mulaila, il est gynécologue obstétricien. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Deux morts dans un braquage à l'agence Western Union dans la commune de Bandalungwa sur avenue Kasavubu en face de la station Bloc. Il s'agit d'un agent de service de gardiennage commis à la parcelle qui loge l'agence et un chauffeur de taxi-bus appelé communément 207. L'événement s'est déroulé le mercredi hier donc, 4 mai, aux environs de 18h. Ce matin, quelques membres de famille de l'agent de sécurité s'est présenté devant l'agence pour pleurer leurs frères. Au Nord Kivu, la vie reprend timidement son cours normal à Bunagana, cité frontalière entre la RDC et l'Ouganda dans les territoires de Rutshuru. Cette situation est consécutive à une semaine d'accalmie observée dans cette zone qui est le théâtre d'affrontements réguliers entre l'armée congolaise et la rébellion du M23. Selon de nombreuses sources locales, certains habitants déplacés regagnent aussi timidement leur village. Bernardin Yangui.
Même si toutes les activités économiques tournent encore au ralenti du fait des commerces qui ne sont pas encore ouverts, l'on peut déjà observer quelques bureaux de services publics qui sont ouverts et la circulation de personnes qui augmente progressivement en intensité dans le centre de Bunagana, indique l'une de nos sources sur place. Pendant ce temps, le trafic routier Bunagana-Rutshuru centre reprend aussi timidement son cours normal, alors que certains déplacés retournent déjà dans le village sous contrôle des FARDC dans cette partie du groupement de Djomba. Selon les sources de la société civile, les grands centres comme Bunagana sont très peuplés et en fin de journée, certains habitants traversent encore la frontière pour passer la nuit du côté ougandais. Rappelons qu'après les derniers combats, mercredi 27 avril, sur les collines surplombant Bunagana, une accalmie règne dans la zone. Selon les sources administratives locales, les unités du M23 restent retranchées dans les collines de Tchanzu et Runyoni, alors que les soldats de l'armée congolaise, eux, consolident leur position notamment dans les villages Rwanguba, Chengerero, Gisiza, Kamira, Kabindi et Djomba, le long de l'axe routier Rutshuru-Bunagana. Goma, Bernardin Yangui, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, deux morts et plus de 40 maisons incendiées. C'est le bilan provisoire des accrochages survenus mercredi entre deux groupes rivaux de la Codeco venus des localités Trikba et Yodja sur le littoral du lac Albert dans les territoires de Djougouanitouri. À l'origine de ces incidents, la mort mardi d'un milicien de la Codeco tué par une faction rivale de ces groupes armés. Mercredi, des membres de la famille de la victime, accompagnés d'une dizaine de miliciens, sont allés sur le lieu du drame pour venger la mort de leur frère. Les combats entre les deux factions rivales ont provoqué la mort de deux personnes, selon des sources sécuritaires qui ajoutent que plus de 40 maisons ont également été incendiées. Par peur de représailles, des centaines de familles ont vidé leur localité pour se mettre à l'abri dans les localités de Djiba et Ndjalo. Des chefs coutumiers locaux plaident pour le déploiement des FARDC dans ces localités lacustres pour protéger les civils qui sont prises comme des boucliers humains. Et puis, des églises et des écoles partiellement détruites, une quarantaine d'habitations et d'églises qui ont perdu leur toiture. Ce sont les dégâts que les habitants de Kambaou à Lubero ont constatés après la pluie torrentielle qui s'est abattue sur leur localité mercredi dernier dans l'après-midi. La société civile recense plusieurs familles qui ne peuvent plus occuper leur domicile. Suivez les explications de Grace Amzati.
La pluie accompagnée de vents violents a duré environ une heure, rapporte la coordination de la nouvelle société civile locale. Les dégâts matériels qu'elle a occasionnés sont importants. 6 salles de classe de l'école primaire Mbounia et de l'institut Tata Roga se sont écroulées. Toutes les 7 salles de classe de l'école primaire Baedumba ont été détruites. 3 églises protestantes et une chapelle catholique ont également été endommagées. Même le bureau du groupement Bapakombe a été touché. il a perdu une partie de sa toiture. À cela s'ajoutent 43 maisons d'habitation qui ont perdu complètement leur toiture. Certaines se sont finalement écroulées après la pluie. À en croire des sources de la société civile, aucun mort n'a été enregistré. Les mêmes sources indiquent que plusieurs familles sinistrées ont passé nuit à la Belle Étoile. D'autres ont été hébergées dans des familles d'accueil. Les élèves dont les établissements ont été endommagés ne sont pas allés à l'école ce matin. Le fonctionnaire délégué du gouverneur dans cette région confirme ces dégâts des pluies. Il dit avoir transmis un rapport à l'administrateur du territoire. Comme la société civile, Maker Sivikunula demande également une intervention urgente en faveur des sinistrés. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Au sud Kivu, plus de 100 camions sont bloqués en ce moment sur la route nationale numéro 5 en territoire de Fizi depuis une semaine. Ces engins pleins de marchandises sont bloqués à la suite du mauvais état de cette route d'intérêt national. La même situation s'observe également entre Bukavu et Kamanyola dans les escarpements de Ngomo. L'office des routes sud Kivu dit attendre des moyens pour entamer la réhabilitation de ces tronçons de la route nationale numéro 5 menacés de coupure. Emmanuel Elamejiwa Kabedi.
Tous ces camions bloqués sur la RN5 sont coincés dans le territoire de Fizi entre Mboko et Baraka et Fizi Centre Lubondia. Une délégation mixte, office de route, FONER et bureau technique de contrôle a fait ses constats sur terrain il y a quelques jours. Toujours sur la RN5 entre Bukavu et Kamanyola, dans les escarpements d'Engomo, la route est totalement délabrée entre Businga et Chemusimbi dans le territoire de Walungu. Une chaîne de bourbiers bloque la circulation, surtout pendant la pluie. Aussi, plusieurs menacent des coupures de la route avec des fissures et des têtes d'érosion sur des endroits très dangereux. Des camions pleins de marchandises en provenance des frontières de l'Afrique de l'Est, en passant par le Rwanda, le Burundi, le port de Kalundu sont souvent bloqués sur ces tronçons. La dégradation de la RN5 est une perte énorme pour les opérateurs économiques des provinces du Sud Kivu, de Maniema et de Tanganyika. Les travaux entamés par l'Office des routes sont aux arrêts suite à l'épuisement du financement reçu du FONER. La RN5 relie Bukavu à Lubumbashi au Katanga sur 1356 km. Elle passe par Uvira, Fizi et Kalemi. Emmanuel Elamejiwa Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
Autre nouvelle, au Kassai Oriental, l'Église du Christ au Congo appelle les candidats gouverneurs à l'acceptation des résultats de vote de ce vendredi 6 mai. Au cours de la réunion du staff tenue au siège de l'ECC, le coordonnateur de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création à la présidence provinciale de l'ECC Kassai Oriental invite aussi la population d'être calme. Maître Louis Kabeya, coordonnateur de la commission Justice, Paix et Sauvegarde de la Création de l'ECC Kassai Oriental, s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Au candidat gouverneur, nous disons qu'on va aux élections pour gagner, mais le contraire est possible. Tout en vous souhaitant bonne chance, nous vous invitons à accepter les résultats des urnes, car il n'y aura qu'un seul gagnant. Aux honorables députés provinciaux, j'ai plus de la sagesse en opérant un choix judiciaire qui reflète la volonté du peuple. Nous donner un gouverneur à la hauteur de relever les défis majeurs de notre chère province. Et donc, les sorts de notre province reposent sur vous. À celui qui sera élu gouverneur, n'ayez pas cherché d'excuses par rapport au temps de son mandat, car il connaît combien de temps lui reste. À la population est-kassayenne, d'accompagner les réélus à la réussite de son mandat, cela pour le bien-être de notre chère province. Nous nous référons aux Saintes Écritures, tirées de 2 Pierre, chapitre 1, verset 10. Nous lisons à ces termes. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous encore plus de prendre au sérieux l'appel que Dieu vous a adressé et les choix qu'il a fait de vous, car en faisant cela, vous ne tomberez jamais dans le mal.
Dans la province du Maniema, le centre de santé de référence de Katako, dans la zone de santé de Kailo, éprouve d'énormes difficultés pour prendre en charge leurs malades. Dans une interview avec Radio Kapi lors de la visite du ministre provincial de la Santé à cette structure sanitaire, le médecin directeur intérimaire a fait savoir que l'hôpital manque la banque du sang pour la transfusion des malades. Docteur Shadari Kayenga plaide pour l'implication des autorités et des partenaires. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Le plus grand problème que l'hôpital fait face actuellement, c'est à cause des manques de banque du sang. Pour transfuser, ça nous coûte un peu difficile. Et des fois, on transfuse le sang à chaud. Et il faut, après avoir prélevé le sang, mettre ça dans un seau d'eau pour essayer un peu de refroidir. Ça a des conséquences énormes, madame. Parce que quand vous transfusez le sang chaud, ça doit entraîner aussi des fièvres. Ce que je demande auprès de notre ministère, c'est de travailler main à main avec notre partenaire Alima pour nous disponibiliser les banques du sang. L'hôpital fait face à d'autres problèmes parce que notre laboratoire ici n'est pas équipé pour faire des examens, par exemple, comme des gouttes épaisses pour détecter le paludisme grave. Nous avons des difficultés parce que nous n'avons des intrants. Pour faire les huidales, c'est les examens appropriés pour la fièvre typhoïde. Ici, nous n'avons pas. Suite au manque des intrants, on transfère souvent les malades. Et souvent, on traite les malades cliniquement. Par rapport aux signes cliniques, on traite les malades. Quand il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est-à-dire que ça peut être ça, ça peut être ça. Donc nous traitons cliniquement, sans précision.
Contacter le ministre provincial de la Santé dit être consterné par cette situation. Docteur Kouba Minongo promet de faire des plaidoyers. Après Lubumbashi et Matadi, le Rassemblement des Enfants des Dieux pour la transformation du Congo, l'Union des Églises et les membres de la présidence de la République sont au Maniema. Cette trilogie procède à la sensibilisation de la population pour une prise de conscience pour un Congo meilleur. L'archevêque Léonard Matebwe Lambalamba, président national de ce groupe, s'est dit préoccupé par les conditions de vie des Congolais pendant que le Congo est un pays riche. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Nous avons commencé à Lubumbashi, sommes allés à Matadi et maintenant nous sommes à Kindu, au Maniema, et nous sommes en train de continuer avec notre tournée. Ce que nous sommes en train de parler, nous partons d'un constat amer qui voit que le Congo n'est pas tel que Dieu a voulu que ça soit. Nous ne vivons pas la vie normalement. Nous voyons que le constat qui est amer prouve à suffisance que les Congolais ne vivent pas une vie normale. La souffrance, nous avons tout ce qu'il faut pour que le pays puisse émerger, ça ne va pas. C'est ainsi que nous avons ce rassemblement qui est dans la trilogie. Ensemble, nous voulons que la vie des hommes change à partir d'abord de leur mentalité. C'est une prise de conscience que nous sommes en train d'injecter, d'imposer dans la tête de nos compatriotes qu'ils comprennent que un Congo nouveau, un autre Congo est possible. Nous avons tout ce qu'il faut pour que l'homme vive normalement. Mais pourquoi nous ne vivons pas? Tout ce qu'il faut pour que le Congo puisse émerger est là. Mais nous, sur terrain, nous voyons que ça capote, ça ne marche pas. Tout enfant de Dieu doit comprendre que avec la prière, avec le changement de mentalité, avec la prise de conscience, ce Congo peut réellement changer.
Signalons qu'une centaine d'évêques et pasteurs ont été ordonnés au cours de cette croisade. Et puis le 15e forum de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE se tient du 2 au 6 mai en format virtuel. À Bukavu, c'est le bureau d'études scientifiques et techniques qui sert de cadre d'échange pour les parties prenantes locales. Ce forum est l'occasion d'examiner et de discuter de la mise en œuvre du guide de l'OCDE sur le cadre de référence et d'orientation pour avoir une chaîne d'approvisionnement en minerais qui soit propre. Cynthia Bachizi pour les détails.
Le Sud Kivu est une région marquée par une intense activité minière, mais aussi par des conflits armés. Ce guide sur l'exercice du devoir de diligence de l'OCDE est pertinent au regard de ce contexte. Il permettra de mettre en place un processus pour s'assurer que les opérateurs miniers se conforment non seulement au droit international, mais aussi aux législations nationales pour combattre le commerce illicite de minerais. Marlene Babouiné, chef de programme au sein du bureau BEST.
On a beaucoup de difficultés dans l'exploitation de l'or, mais aussi dans la commercialisation de l'or, parce que vous savez, avec l'or, on peut cacher, même si c'est une petite partie, même dans la bouche, dans les habits, et traverser les frontières avec ça. On a essayé avec le système de traçabilité de l'or. À Louis, ça n'a pas marché parce qu'il y a plusieurs cas de contrebande et de fraude avec l'or. Les guides mis en œuvre vont prendre en considération cela, mais aussi ça laisse plus d'ouverture au gouvernement de faire des propositions, des initiatives pour tracer les minerais de l'or.
Notez que les autorités provinciales, des représentants de certains services étatiques ainsi que des représentants de la société civile prennent part à ces assises. Il faut préciser qu'avant le Covid-19, ce forum se passait en présentiel chaque année à Paris. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Une importante délégation malienne a achevé mercredi 4 mai une visite de travail de 2 jours à Lomé au Togo, conduite par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. La délégation a demandé au Togo de jouer le médiateur entre Bamako et la CEDEAO, d'une part, ainsi qu'avec la communauté internationale, d'autre part. Le Mali cherche le soutien de ses voisins face aux sanctions. Depuis début janvier, Bamako est visé par des mesures de rétorsion économique lancées notamment par la communauté ouest-africaine afin de raccourcir la durée de transition, alors que les militaires au pouvoir tablent sur une période de 2 ans. Et puis, au 71e jour de l'invasion russe en Ukraine, ce 5 mai, Kiev a déclaré que les combats continuaient dans l'usine d'Azovstal, alors que la Russie affirme respecter le cessez-le-feu qu'elle a annoncé hier et qui devrait débuter aujourd'hui à 5h temps universel. Et puis, le président français Emmanuel Macron se rendra lundi à Berlin pour y rencontrer le chancelier Olaf Scholz, son premier déplacement depuis sa réélection et son investiture, afin de marquer la force du couple franco-allemand, a annoncé jeudi l'Élysée.
L'invité.
Docteur Mbungu Mulaila est notre invité. Il nous parle des consultations spécialisées gratuites que le centre hospitalier Lumbulumbu organise à Kindu en faveur des femmes souffrantes des problèmes d'infertilité primaire et secondaire, ainsi que celles ayant d'autres pathologies gynécologiques. Docteur Mbungu Mulaila s'entretient avec Florence Kizalunga. Suivez.
Docteur Mbungu Mulaila, bonjour.
Bonjour, madame.
À ce jour, encore une fois, le centre hospitalier Lumbulumbu Clinique Mapon organise les consultations spécialisées gratuites des femmes souffrant de problèmes d'infertilité primaire et secondaire, ainsi que celles ayant d'autres pathologies gynécologiques. Il s'agit exactement de quelle autre pathologie?
Pour ce qui est des autres pathologies gynécologiques, il s'agit principalement des fibromes que l'on appelle myomes. Il s'agit des troubles des règles, des douleurs ou sensations de masse au niveau des seins. Il y a des femmes qui ont des pertes de libido, c'est-à-dire perte d'appétit sexuel. Il y a des femmes qui souffrent de douleurs chroniques au niveau de la hanche et ainsi de suite.
Cette campagne que vous lancez aujourd'hui prendra combien de temps et vise combien de femmes?
La campagne prendra 1 mois à dater de ces 2 mai 2022 jusqu'au 2 juin 2022. Alors, elle vise 2 milliers de femmes, si je peux le dire ainsi, parce que avec l'expérience que nous avons du projet PEDCES que nous venions de faire tantôt, nous avons constaté que les femmes qui souffrent de différents problèmes que nous venions de citer tantôt, il y avait 2 milliers qui avaient bénéficié des soins et d'autres qui se trouvaient loin ou qui n'étaient pas informés de la campagne avaient difficile de nous contacter à ces temps-là. Et nous avons constaté qu'il y a eu une forte demande des gens qui voulaient bénéficier de ces consultations-là, mais qui restaient à la maison faute de moyens. C'est ainsi que nous nous sommes dit, avec la direction de l'hôpital, que nous pouvons organiser une campagne de consultation gratuite afin de permettre à ce que ces femmes, ces couples, puissent avoir accès libre à l'hôpital, moyennant 0 francs, afin de bénéficier des consultations les qualités par le personnel qualifié.
Vous dites que bien avant, vous avez bénéficié du financement du projet PDC, ce qui ne plie. Maintenant, c'est avec quel financement que l'hôpital organise ses consultations?
Il n'y a aucun financement venant de l'extérieur. L'hôpital utilise son personnel, sa main-d'œuvre locale pour aider la population du Maniema en général et celle de la ville de Kindu en particulier. Parce que c'est parmi les objectifs de l'hôpital de donner des soins de qualité à l'ensemble de la population et à des coûts très bas.
Quand vous parlez de la prise en charge, après ces consultations, qu'est-ce qui va suivre? Où est-ce que ces mamans vont se diriger?
C'est toujours dans notre hôpital que la prise en charge continuera, mais seulement que nous allons regretter s'il arrivait que la personne n'a pas de moyens. Nous serons dans l'impossibilité de la prendre en charge parce que l'hôpital ne disponibilisera tout ce qui est nécessaire, par exemple, pour toutes les interventions qui seront, par exemple, décidées ou programmées. Et à cela, nous faisons appel à la communauté, à ce malade, de s'auto-prendre en charge à ce coût que nous leur accordons.
Pourquoi l'hôpital n'accorde pas la faveur en totalité à ces mamans? C'est-à-dire, vous les consultez et en même temps, vous les prenez en charge.
C'est pratiquement difficile parce que la prise en charge de ces différentes pathologies que nous venons de vous dire là, si nous les suivons à la lettre, c'est vraiment exorbitant. Prenons le cas des femmes qui viennent pour les problèmes d'infertilité. S'il faut faire juste le bilan en rapport avec les hormones, nous avons pas mal de milliers de dollars qu'il faut dépenser pour ça. et que l'hôpital ne sera pas à mesure de couvrir pour toute la communauté qui viendra fréquenter pendant cette période de campagne. Mais néanmoins, pour le minimum d'examens que l'on puisse faire, nous avons sensiblement baissé les différents prix afin que, peu importe la bourse de ces différentes malades qui viendront consulter pendant cette période, ces gens puissent bénéficier au moins du bilan qui seront faits par un personnel qualifié.
Docteur, vous n'allez pas créer des problèmes psychologiques à ces moments? Quelqu'un qui est souffrant passe à la consultation et confirme sa maladie sans être pris en charge.
Madame, l'important dans la prise en charge des malades ou de différentes maladies, c'est d'abord le diagnostic. Si nous pouvons déjà aider cette population qui consultera à connaître au moins de quoi il s'agit, elle pourra se préparer pour une meilleure prise en charge par la suite et de ce fait, nous les aiderons à ne pas fréquenter le charlatan, à ne pas s'éterniser encore dans les églises, à ne pas fréquenter davantage les traduits praticiens qui vont commencer à soigner les choses à l'aveuglette. Ça sera vraiment un service que nous allons leur rendre, de connaître au moins de quoi on souffre et puis quel est le coût qu'il faudra pour être pris en charge correctement.
Merci, docteur Mboumoulaïla.
Merci, madame.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Mise en onde Alain Goyi, coordination Blaise Chindani, sous la supervision de Martin Sebujangwe, était à la présentation Jacques-Yves Molima. Merci de nous avoir suivis.